Tu m'as dit le ticket. L'aventure du product management racontée par celles et ceux qui la vivent. Voici notre promesse avec ce podcast qui a pour objectif de t'inspirer et te faire progresser.
Dans chaque épisode, nous explorons une histoire concrète racontée par les product managers qui l'ont vécue, comme si tu étais à leur côté dans les coulisses. Je suis Kevin, journaliste économique.
Je suis Tanguy, product manager.
Bienvenue dans Epic, le podcast aventureux du product management.
Produit par le ticket.
Bonjour tout le monde, deuxième épisode du podcast du ticket. Salut Tanguy.
Salut Kevin.
Salut Tony.
Salut vous deux.
Merci de te joindre à nous pour raconter une histoire épique que tu as vécue. Petite présentation, tout d'abord, Tony, tu es originaire de Vélizy et ça fait une dizaine d'années que tu es dans le produit maintenant. Tu as commencé en 2013 chez Vente Privée, alors on dit VP maintenant, et tu étais Head of Product jusqu'à 2017 où là tu es recruté par Backmarket en tant que premier PM. Backmarket, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la place de marché du reconditionné, c'est-à-dire pour acheter ton smartphone ou ton ordinateur en seconde main. C'est une boîte qui a levé 450 millions d'euros en janvier 2022 et qui, à cette occasion, est devenue une licorne. Et toi, à ce moment, tu étais Product Director et au sein du Comex également de la boîte. Et là, depuis octobre 2021, c'est tout frais, tu as rejoint la startup Zephyr, spécialiste de la vente immobilière instantanée, en tant que premier produit, Head of Product, voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter une histoire, ton aventure au sein de Backmarket, justement. L'idée, c'est de voir comment est-ce que, en tant que PM, on évolue dans une boîte qui, elle, évolue vite, très vite. Comment on se positionne, son rôle évolue, comment on gère sa carrière. Bref, c'est l'histoire épique du jour. On y va ?
Yes.
Allez, chapitre 1.
Bon, Tony, est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter comment t'es arrivé chez Backmarket ? Comment ça s'est passé ?
Yes, c'était été 2017, ça faisait déjà un petit bout de temps que j'étais chez Vente Privée, à peu près, enfin quasiment 6 ans. Donc j'avais mon rôle d'Head of Product, je gérais une équipe de 6 PM avec 6 teams fonctionnels en gros. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais commencé PM là-bas et du coup j'avais évolué Head of Product, du coup il y avait déjà un peu cette notion de premier PM, mais bon, c'est complètement différent. Et à cette époque-là, en gros, il y a pas mal de... c'est très égotripe, mais il y a pas mal de gens qui chassent à cette époque-là et du coup je réponds pas trop parce que je me sens bien chez Vente Privée. Ça marche bien, ça roule bien, on est dans une phase où il faut optimiser le produit et on arrive à le faire, ce qu'on a mis du temps à mettre en place pour le coup, parce que c'était quand même une boîte assez lourde et un peu old school dans la tech. Et je sais pas pourquoi je réponds à une sollicitation avec quelqu'un qui est plutôt très agréable, avec qui ça se passe bien, et qui sent que je suis pas dans une optique de départ et qui, pour tenter de me draguer un peu, me demande ce qui me ferait bouger. Et je lui réponds assez instinctivement que forcément, je cherche quelque chose de beaucoup plus early que Vente Privée. À l'époque, Vente Privée, c'était déjà 2 500-3 000 personnes, donc gros groupe. Donc quelque chose de beaucoup plus early, mais qui a déjà montré un market fit, parce que je suis un peu risk averse quand même. Je lui avais dit aussi que je voulais une équipe de fondateurs qui se complètent. Donc des gens qui n'ont pas les mêmes spécificités et qui ont des expertises différentes qui se complètent, c'était hyper important pour moi. Et qui ont déjà réussi un peu à s'entourer d'un début d'équipe pour pas arriver... tout premier et devoir tout monter quoi. Et c'était déjà un peu ma tendance à l'époque, c'était de trouver une entreprise qui a un peu plus de sens que ce que je faisais chez Vente Privée. Chez Vente Privée, en gros, on vend des produits pas chers à des gens, ce qui est très cool, mais ce qui est pas très porteur de sens. Et là, je voulais être dans un truc qui avait une portée, on va dire, un peu plus positive, même si on met tous ce qu'on veut derrière la notion de sens et de positif. Comme pas mal de fois dans ma carrière, en gros, je crois un peu au hasard et aux belles rencontres et je la sens instinctivement très enchantée par le discours que j'ai. Et en gros, elle est direct dans un côté positif en disant « Ok, je pense que ça match ». Et elle me l'a dit après, elle était quasiment sûre à ce moment-là que ça irait au bout. Et du coup, elle me dit pas la boîte. Elle me le dit assez rapidement parce qu'elle voit qu'il faut me tenir. Et là, je me retrouve du coup à rentrer en process avec Backmarket, que je connaissais un tout petit peu à l'époque parce que ça faisait partie de ma veille côté produit, ce qui est assez rigolo d'ailleurs. Et ouais, assez rapidement, en fait, il y a tout qui match. Parce que principalement, j'ai un gros feeling avec les trois fondateurs, donc Thibaut, Vianney et Quentin. Et à l'époque, en plus, ce qui moi m'attire dans les discussions que j'ai avec eux, c'est qu'ils cherchent un product manager, mais ils savent pas ce que c'est que le produit. Et en fait, l'approche que j'aime bien, c'est qu'ils sont très naturellement dans les discussions qu'on a, ils me le disent en fait. Ils sont pas en mode on cherche quelqu'un pour faire ça, ça, ça. Ils sont en mode il faut qu'on prenne quelqu'un au produit. Par contre, factuellement, on sait pas trop ce que c'est et qu'est-ce que tu ferais en gros. Je me souviens de discussions avec Vianney notamment, on a passé longtemps à parler de ça. Et du coup, je l'ai rejoint en septembre 2017, ouais, avec une étiquette de head of product. Alors, ce qui est toujours drôle parce que pour le coup, j'étais le premier au produit et du coup, bah, j'étais head de moi-même, quoi. Et je crois qu'à l'époque, on était 25 personnes, quelque chose dans le genre, donc c'était toute petite boîte. Et c'est assez magique parce que, en fait, quand j'arrive, je me rends compte qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui fonctionnent. Dans le sens, il y a une équipe de, si je me trompe pas, c'était 3 front-end, 3 back-end, qui bossaient en direct avec le CTO. Il n'y avait pas de product designer, tout était fait par Vianney, qui lui-même faisait ses petites maquettes sur Figma, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte qu'il y a un fonctionnement produit qui est mis en place sans avoir le nom produit. Dans le sens... Bah, t'as déjà un produit, un site fonctionnel, un back-office qui marche bien, t'as une équipe qui a, on va dire, un fonctionnement agile et qui a pas besoin d'avoir, ou t'as pas besoin de retravailler tous les basiques de l'organisation, enfin, t'as une roadmap, t'as un backlog, t'as des sprints, t'as des rites, enfin, il y a une notion d'incrément, d'itératif, etc. Donc, les choses sont déjà là. Et là où c'est aussi très cool pour moi, c'est que t'arrives et qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup d'idées. Beaucoup de choses à faire, t'es encore dans une phase où tu dois construire les basiques, mais tu sens que l'ambition de la boîte et la volonté de faire quelque chose de bien, et quand je dis de bien, c'est surtout d'un point de vue qualité de ce qu'on veut produire, est déjà là. Donc en fait, il y a déjà une logique produit. Donc ça, c'est super agréable pour moi parce que j'ai juste à arriver à faire mon taf.
Du coup, tu dis que t'arrives chez Back Market, que c'est foisonnant d'idées, qu'il y a déjà un début de culture produit. Du coup, c'est quoi ton rôle? Tu fais quoi à ce moment-là?
Il y a plusieurs facettes. Je me souviens, je fais un truc qui, avec du recul, me semble être un excès de zèle de fou, mais pour justement essayer de mettre en place des bonnes habitudes et tout, bah, je prends les basiques de fonctionnement d'un PM, quoi. Donc je rédige des specs, mais vraiment des specs au poil de cul, impeccables. Il y avait vraiment tout le comportement qui était écrit. Le truc, je passe des heures, voire des journées dessus. Je découpe dans Jira, enfin, je fais vraiment tous les basiques pour essayer de me dire, ok, il faut que je facilite le travail de tout le monde dans la boîte, et notamment des devs, parce que je suis aussi venu, dès le début, j'ai une teinte plutôt travailler avec l'équipe d'ingé, essayer de la structurer, de faire en sorte qu'on augmente la capacité à faire, etc. Donc j'essaie de tout faire. Et ça se passe bien. Alors après, c'est marrant parce que du coup, j'ai encore des gens qui étaient déjà là à cette époque côté ingé. Je sais qu'ils n'ont jamais lu mes specs et que ça a plus aidé dans la discussion, dans la conception, dans ce qu'on appellerait de inclure les devs dans la discovery, quoi. Par contre, les specs, tout le monde s'en fout. Donc ouais, voilà, je prends beaucoup de sujets comme ça. Je me souviens, je travaille sur l'intégration de PayPal, enfin des choses vraiment très micro à l'échelle de la boîte, quand on regarde la boîte telle qu'elle est aujourd'hui. Et je prends aussi beaucoup de temps pour bosser sur, on va dire, tout ce qui est tooling et setup d'organisation. Et le truc qui me revient à l'esprit, et pareil, j'ai l'impression d'avoir passé des jours dessus, c'est sur setup Jira, parfaitement, qui est en vrai, c'est incroyable parce que j'en reparlais la dernière fois justement avec des gens de l'équipe, et en fait, c'est fou l'impact de petites choses que tu peux faire comme ça. Enfin, le fait d'avoir dit, en arrivant, ok, je veux qu'on soit sur Jira, parce que globalement, chez Vente Privée, je venais de setup Jira pendant des mois et que j'avais de l'expertise, et je me suis dit, vas-y, je vais utiliser ça et je vais l'imposer à tout le monde et ça va marcher. Je suis arrivé, j'ai pas passé des temps à faire des workflows pour les équipes, à découper des backlogs pour les gens, etc. Et au final, 4 ans plus tard, on était encore sur Jira, c'était vachement mieux travaillé parce qu'il y avait des gens beaucoup plus forts qui avaient pris le truc, mais il y avait encore des bribes de ce que j'avais fait au début, et en fait, avec du recul, je me dis, c'était quand même vachement lourd ce qu'on a fait. Et du coup, ouais, non, c'est marrant de voir que l'impact de ce que tu peux faire au début peut survivre pendant autant de temps. Dans les autres choses qu'on fait, je bosse beaucoup avec Quentin.
Le CTO.
Le CTO, ouais. Qui est quelqu'un qui adore les sujets de fonctionnement, d'orga, et qui veut à chaque fois faire en sorte que les choses aillent au mieux et mettre de l'huile partout. Et du coup, on commence à... sans trop factualiser les choses et sans trop... imposer du changement, mais on commence nous deux à se dire ok, où est-ce qu'on veut être dans X temps en termes de rite, de fonctionnement, d'orga d'équipe, de découpage des périmètres, enfin tous les sujets vraiment là déjà avec une vision on va dire plus boîte et système du produit et de la tech dans l'ensemble de Back Market, quoi. Et il y a un moment aussi qui est intéressant pour moi, c'est qu'à cette époque-là, Back Market était accompagné sur tout ce qui est question de priorisation de boîte. Par Fly the Nest, qui est une boîte qui est vraiment très cool pour ça. Et il y avait une, on va dire un rite de boîte qui était le Fly Axis, qui était en gros je prends toutes les équipes de la boîte, je les réunis dans un espace, tout le monde a dû mettre ses prios de chaque mois sur le semestre à venir, et en gros toutes les deux semaines on prend un moment et on se dit ok, tel sujet on l'a fait, on l'a pas fait, on explique, etc. Et Quentin adore ce truc et veut me le passer. Moi je suis très content parce que je découvre un fonctionnement qui me plaît en fait, à l'inverse d'une boîte comme Vente Privée où les priorisations elles se font dans des petites unités de décision. T'es encore capable de te dire à un niveau de boîte, on peut décider tous ensemble et justement partager justement toute la vision qu'on a nous en tant qu'équipe marketing ou en tant que brand, etc. Et du coup, je prends ça en main. C'est très agréable parce que forcément, mon rôle c'est plutôt de mettre, d'être owner des sujets produits et tech dans tout ça, qui était objectivement déjà un point de tension dans la boîte. Hein, c'est toujours la même chose. c'est le bottleneck par définition. Mais ce qui est intéressant, c'est en même temps, t'essayes aussi de mettre en avant les sujets de tout le monde. Typiquement, t'essayes de mettre au même niveau le fait d'avoir la première pub télé de la boîte que la refonte, encore une fois, du tunnel d'achat ou des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment très très cool. Et pareil, un peu comme ce que je disais sur Jira avant, même si ça a pas duré des années, ce fonctionnement, parce que c'est pas possible à l'échelle. Mais par contre, ça a laissé des traces, je pense, dans l'orga et dans le fonctionnement, de dire ok, tout le monde doit connaître les prios de tout le monde. Qu'elle soit à des niveaux macro, hein. Mais ce truc de dire en gros, moi, un G dans une feature team, je dois être capable de savoir quelles sont les priorités du marketing ou de la brand parce que c'est un sujet de boîte et qu'en fait c'est aussi ça le produit en fait. Enfin, tout est produit dans la boîte et en gros, moi je suis content de savoir que quand il y aura une pub télé, je sais que le site risque de bouger, que je risque de devoir tenir la charge, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a gardé fort pour le coup.
Ok, et du coup, toi, concrètement à cette époque-là, ton taf il ressemble à quoi?
Il ressemble à, en vrai, à un taf de PM assez basique. Ça dépend ce que tu mets dans le taf de PM, mais je passe mon temps à essayer de comprendre les dynamiques des gens et les volontés / les problèmes déjà qu'ils ont dans la boîte. Donc le but, c'est de prendre un peu tout ça, d'essayer de construire une roadmap, même si c'est un gros mot à cette échelle, mais c'est en gros de te dire quels vont être mes prios et qu'est-ce qu'on va devoir dépiler dans les mois à venir. Et un gros focus aussi pour moi à l'époque, c'est de me dire, je vais quand même essayer de recruter. Même si à l'époque, comme je disais tout à l'heure, chez Vente Privée, j'étais manager mais d'une équipe de 6 personnes, donc c'est pas des énormes équipes non plus. Et chez Back Market, je me dis assez rapidement, il faut que je trouve des gens pour être avec moi. Pas trop, parce que c'était pas le but du jeu. Hein, je voulais justement avoir vraiment les mains dedans et construire ce qu'allait être ce produit pour la suite. Du coup, je passe du temps quand même. Magie du recrutement, je recrute quelqu'un qui arrive avant moi dans la boîte, donc ça c'est super. Vaza, premier product designer, coucou. Et assez rapidement, je crois vraiment 2-3 mois après mon arrivée, j'ai un premier PM qui arrive, Léopold, qui vient de Vente Privée et qui... je pense que c'est déjà un premier moment où ça change pour moi dans la boîte parce que on commence à avoir une capacité à faire qui est plus proche de la réalité de l'ambition. Parce qu'objectivement, tout seul, tu surnages. Hein, même quand t'as qu'une petite équipe, t'as déjà plein de gens qui ont des bonnes idées parce qu'ils ont des bons cerveaux, quoi. Et donc là, quand on commence à être à deux, c'est plus facile parce qu'on commence nous-mêmes à faire notre tambouille interne, nous, produits et ingé, sur mieux se répartir les sujets, commencer à mettre des expertises un peu plus fortes sur telle typologie, typiquement marchand-client, etc. Donc ça fait partie aussi du jeu, quoi. Mais... en gros, on reste dans ce setup pendant pas mal de mois, je dirais même quasiment 8-9 mois, et ça marche bien parce que, encore une fois, vu qu'on est dans un moment de construction des fondations et de tous les basiques produits, en fait, le temps passe vite, quoi.
Donc là, c'est le premier chapitre, la vie de Tony en tant que premier PM de Back Market. On passe au chapitre 2, la phase de maturité.
Donc là, on arrive, en gros, on est en février ou mars 2018. Au final, on a déjà grandi, principalement côté ingé. Là, il y a environ en face de moi une quinzaine d'ingénieurs. Je crois qu'on est 60 dans la boîte, quelque chose comme ça. Donc nous, on est 3 au produit. Et c'est là où on se dit, ok, on commence à avoir un fonctionnement qui marche, dans le sens où on arrive à créer de la valeur et tout, c'est super. Mais il va falloir qu'on ait une approche un peu plus organisationnelle / systémique de la chose parce que quand nous on est 15 en tech produit, la boîte elle croit beaucoup plus vite à côté, hein, donc encore une fois plein de personnes, plein de cerveaux, plein d'idées, plein de choses à faire. Et du coup, c'est là où, encore une fois, avec Quentin, on commence à se dire, OK, tout ce qu'on a commencé à réfléchir ensemble, bah, on va essayer de mettre des choses en application. À cette époque-là, on a tout le monde regarde les mêmes choses. Donc nous, on est assez excités parce qu'on voit de Spotify, enfin le fameux scaling agile, etc. Donc on se dit ouais, à l'échelle ça va marcher ça.
Et les feature team, comme on dit.
Les feature team, exactement. Et on s'excite là-dessus. Par contre, assez rapidement, on est très honnête avec nous-mêmes. On se dit qu'on est incapable de le faire parce que c'est très cool de pouvoir découper ton produit et c'est très cool de le découper sur le papier, enfin de découper des paramètres fonctionnels. Mais par contre, il faut des gens quoi, parce que c'est des orgas qui demandent pas mal de monde. Donc on se dit à cette époque-là qu'on veut tester quelque chose, on croit donc fort au feature team, donc on se dit qu'on veut tester une feature team, et en gros, pour décider ce qu'on va tester, on se repose sur la vision de la boîte, et sur les moments de difficulté slash de valeur ajoutée pour les clients, et on se dit assez rapidement qu'en gros là où il y a une grosse valeur à créer de l'expertise, on va dire plus dédiée et plus en maîtrise de son périmètre, c'est surtout le post-achat. Donc si jamais t'as un problème avec Backmarket, le but du jeu c'est qu'il n'y ait pas de problème et que potentiellement tu reviennes acheter aussi plus tard. Donc on se dit ok, on va tester un modèle de feature team, on appelle ça la CSAT, la Customer Satisfaction, et quand on dit qu'on va tester, c'est on essaye de se dire on le fait by the book quoi. Donc il y a le fonctionnement agile, backlog dédié, multi-expertise, etc. Donc on essaye de lancer ça, mais quand on se dit ça, on veut la faire toute petite au début, il nous reste quand même un bon deux tiers de l'équipe qui est à côté. Et du coup, on cherche comment on va le faire. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à faire de feature team. Et du coup, on tombe aussi sur un autre article qui est celui de Jason Fried de Basecamp. Et on se dit qu'en gros, on va tester un peu ShapeUp. À l'époque, objectivement, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On n'a jamais utilisé le mot ShapeUp, par exemple. On ne savait même pas que ça s'appelait comme ça. Mais par contre, on est assez, assez intéressé par le côté... tu prends ton équipe, t'essayes d'avoir un cycle, peu importe le nombre de semaines que tu mets, je crois que c'est 6 semaines chez eux, je crois qu'on avait testé la même, mais où tu te dis en gros je vais avoir un big batch, un small batch, ça nous paraît bien, parce qu'à ce moment, en fait en ce moment de boîte, et c'est à peu près je pense pareil pour tout le monde, on commence à se poser des questions de comment on gère le build, comment on gère le run, comment on va avoir du support à côté de tout ça, et en fait ça nous semble être une bonne façon de répondre un peu à ces problématiques, et du coup ce qu'on fait c'est que on met aussi en place un truc qui est on appelait ça le BOT prend l'air, parce que le BOT c'est le nom de l'équipe tech et produit chez Backmarket, c'est le Bureau of Technology. Et du coup on se dit on va commencer à faire un truc, c'est on va prendre tout le monde, on va aller à l'extérieur, on va parler que de notre équipe, que de notre fonctionnement, que de l'orga. Et on le fait pour une première fois, et en fait c'est un moment assez cool et fondateur dans le truc, parce qu'en gros on se dit ok, on réfléchit de nous tous l'orga, alors forcément nous on a nos idées. Mais on se dit à tout le monde, ok, si on veut que ça marche, il faut que tout le monde soit on board dans le truc. Et en fait, c'est aussi à vous de faire la forme de ce truc, quoi. Ça marche. Ça marche plutôt bien, parce que ce soit le format feature team ou le shape up, ça force tout le monde. Ça force, c'est pas le bon mot, mais ça aide tout le monde à réfléchir plus produit. Dans le sens, ton orga est un produit, ton fonctionnement est un produit, du coup c'est plus naturel pour les gens de travailler avec une logique produit. Tout le monde est dédié donc sur un périmètre, que ce soit encore une fois de la feature team, c'est ça, ou du big batch, small batch. Et ce qui marche bien aussi, c'est que les gens autour de ce fonctionnement produit tech commencent aussi à se greffer à tout ça. Et il y a un gros moment de... en fait, là, on sent qu'on commence à devenir plus mature parce qu'on priorise plus les choses par « Ok, on n'a pas cette partie de l'expérience, il faut qu'on l'ait. » Là, on commence à réfléchir par de la priorisation, par l'impact, par la valeur. Et c'est aussi à ce moment, en fait, où on commence à avoir, le stress de la priorisation, parce que on commence à avoir une vraie équipe, mais par contre, elle est encore une fois toute petite. Et du coup, on se dit, y a une espèce de philosophie de la prio qui est de dire « Ok, si on fait un mauvais choix... » en fait il est coûteux exponentiellement pour la boîte, parce qu'on est tellement rare dans ce qu'on est capable de faire qu'il faut pas se tromper quoi. Donc pareil, c'est là où on commence aussi à un peu plus réfléchir la relation entre les stakeholders et le reste des équipes et notamment de ceux qui produisent quoi, produits et tech encore une fois. Là où on commence aussi à sentir ces questions de priorisation, c'est sur la notion de big batch et small batch. Nous, on le prend vraiment au pied de la lettre. On se dit, en gros, le big batch, il va gérer un sujet, qui va être un sujet un peu lourd. J'ai plus d'exemples en tête. Si, l'exemple que j'ai en tête, c'est le swap. Alors ça, c'est un peu plus tard, mais c'était toujours sur son fonctionnement. Le swap, en gros, c'est de dire, toi, client de Backmarket, tu viens pour acheter un téléphone, mais tu peux revendre ton téléphone en même temps pour avoir une réduction directe sur ta transaction. En gros. Ça, on le traite en big batch. Donc on se dit, en gros, on a 6 semaines pour le faire, et voilà, vous faites que ça. ça marche plutôt bien. On a toujours les mêmes soucis que tout le monde qui fait du shape-up, qui en gros, bah, qu'est-ce qui se passe quand t'as pas fini en 6 semaines, comment tu fais les accréments, les itérations dessus, etc. Mais ça marche pas mal. Et pareil, sur les small batch, qu'on assume de considérer comme étant une team qui va gérer principalement du run et de l'optimisation. Ça marche bien, mais c'est plus difficile parce que du coup, bah, t'as une multitude d'objectifs à traquer, à suivre, à prioriser. Et au final, on a du mal à se dire, OK, comment on va remplir ces 6 semaines de taf et comment on va faire en sorte que les gens fassent les choses bien dans les bonnes tempos, etc. C'est un peu plus compliqué, pour le coup. Et tout ça, je suis son petit bonhomme de chemin. Et personnellement, moi, ça change aussi pour moi, du coup, parce que vu qu'il y a un fonctionnement qui est à mettre en place, ça continue de grossir, quoi. Du coup, on recrute de plus en plus de tech. Moi, je commence à recruter un peu plus de personnes aussi aux produits. À cette époque-là, on a 3 product managers, 2 product designers. Donc, ça commence déjà à être un peu plus, j'allais dire, opérationnel. On tient ce fonctionnement avec les deux jusqu'à, en gros, 40 personnes côté ingé aussi. Et moi, perso, c'est le moment où je sens que je me détache de l'entièreté du produit. Forcément, je vois encore tout, mais en fait, d'ailleurs, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, mon cerveau est de plus en plus accaparé par l'orga, le fonctionnement, les endroits où il y a de la valeur à chercher. Typiquement, le swap, c'est un truc que j'avais pris en direct parce que ça, c'est des sujets qui sont intéressants pour moi. Mais je commence à me mettre en marge du fonctionnement global, mais aussi, c'est un bon signe, ça veut dire que ça commence à fonctionner ailleurs sans moi. Donc, c'est super plaisant, mais c'est une posture différente. Ouais.
Justement, c'était la question que j'allais te poser. Toi, en termes de dynamique, en termes d'émotion, au début de notre échange, tu parlais vachement des fonctionnalités que tu allais lancer, de l'implémentation de Jira, etc. Tu étais très proche de la production du produit. Là, depuis quelques minutes, tu nous parles que d'orga, d'animation d'équipe. Toi, personnellement, il se passe quoi dans ta tête, dans ta vie? Tu t'éloignes du faire?
Ouais.
Comment tu le vis?
C'est excitant aussi parce que c'est... alors objectivement, à ce stade de carrière, c'était le track que je voulais, d'être plutôt dans le côté, on va dire, organisationnel du produit, quoi. Justement, faire en sorte qu'on fasse les choses bien, mais pas que je fasse toutes les choses, quoi. Donc non, je le vis plutôt bien. En fait, à cette époque, pour être très franc, je me pose pas la question. Parce que je suis dans un truc où je vois que le produit évolue dans le bon sens. Donc je suis assez basique quand même, je me dis que factuellement les choses vont bien, et que du coup il faut continuer dans cette direction. Donc non, moi ça me va bien parce que en fait j'ai l'impression de faire du produit autrement, dans le sens en réfléchissant beaucoup plus sur quels sont les périmètres, les découpages de chaque périmètre, qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif justement dans chaque périmètre. Enfin, c'est là où tu commences aussi à avoir... on commence à parler d'OKR, on commence à parler justement de chaque feature qui doit passer dans le backlog doit avoir un incrément chiffré, etc. Enfin, on est dans une autre logique qui, moi, me plaît. Objectivement, à l'époque, je sais pas faire. Donc, c'est aussi cool pour moi parce que je découvre en faisant et non, la dynamique pour moi, elle est bonne, quoi. Et puis, je m'amuse parce que du coup, construire une équipe, c'est toujours sympa. Surtout quand t'es dans ce... Encore une fois, la Backmarket à cette époque-là était déjà dans une très belle phase de croissance et ça devenait de plus en plus facile de recruter des gens parce qu'on entendait parler de nous. Je crois qu'à cette époque-là, si je ne me trompe pas, on était déjà sur la deuxième levée de fonds. Donc ça, il y a de l'attraction, quoi. C'est pas douloureux de recruter et d'organiser. Au contraire, ça montre que ça va bien, quoi. Donc non, très très positif.
Et comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que tu montes en compétences? Tu vois, tu disais que tu avais jamais fait ça avant. Est-ce que tu t'entoures? Est-ce que tu es coaché? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais ça sur le tas?
Yes. Alors en vrai, Quentin a joué un gros rôle dans tout ça parce qu'il est continuellement en train d'essayer d'apprendre et en fait c'est quelqu'un qui aime bien aller discuter avec tout le monde. Du coup, on se retrouve souvent à discuter avec plein de genres d'orga, de fonctionnement, etc. Donc c'est assez naturellement, t'apprends en discutant, en fait. Je me fais accompagner, parce que pour le coup, BM, comme je disais, travaille avec FlyTheNest et du coup, aide les gens. Et en fait, FlyTheNest a quand même, à cette époque-là, aussi une grosse teinte de produits. Et du coup, je me fais bien aider. c'est plutôt très, très plaisant. Et non, il y a un truc qui est... Il y a une vraie vertu aussi dans le fait d'avoir des équipes qui grossissent bien. Parce que à cette époque, chez BM, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais il y a une politique de recrutement assez ambitieuse. Du coup, on recrute des gens qui, globalement, sont très bons et, en fait, qui nous apprennent autant de choses, quoi. Enfin, et même si, dans mon équipe, pour le coup, il y avait plutôt une teinte, on va dire, junior-mid, je vois des façons de faire et des choses que, moi, j'aurais fait complètement différemment. Et, en fait, ça m'aide à aussi me projeter dans la suite et à voir comment le fonctionnement va se faire, quoi. Donc, non, en fait, on apprend assez naturellement par l'émulation qu'il y a dans la boîte, quoi.
Du coup, tu disais tout à l'heure que vous avez continué avec une double organisation, Shape Up et Feature Team, jusqu'à à peu près 40 ingés et 5-6 personnes au produit. Ça sous-entend qu'à un moment, vous avez switché sur autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à switcher?
C'est un peu la même, en gros. Quand tu prends le déroulé, à peu près tous les 7-8 mois, on a fait évoluer l'orga à ce moment-là. Et là, on est en fin d'année 2018, on refait la même chose, on réunit tout le monde, parce qu'on sent qu'il faut le faire. Enfin, en fait, ce qu'on se disait aussi avec Quentin, c'est à chaque fois qu'on commence à sentir des problèmes opérationnels ou de la lenteur ou de la fatigue, on essaie de faire autre chose. Et du coup, là, le autre chose, c'est on abandonne Shape Up, parce que ça devient moins efficace pour nous, parce qu'on n'a pas respecté toutes les règles, je pense. On a continué à mettre beaucoup de gens dans ces équipes et à se dire, ok, on va gérer de plus en plus de choses. En fait, c'est trop dur. La philosophie de Shape Up, elle est sur avoir, on va dire, un backlog assez restreint que tu veux tacler et sur lequel tu t'engages fortement. Et nous, là, on mettait plus de gens, donc plus de choses, et en fait, on n'y arrivait plus. Donc, on a oublié ça. C'est à ce moment-là, ouais, je pense qu'on est encore un chouïa plus mature et on se dit, ok, on va accepter ce qu'on veut faire depuis le début et on avait un peu peur de le faire. On va dire, on part en mode full feature team. Et donc là, on fait ce point et on se dit, dès le lendemain, on lance 3 nouvelles feature teams. Et on donne un plan aussi où on se dit, ok, d'ici 3-4 mois, donc début 2019, on veut être à 6 feature teams. Et on veut y aller, on est sûr de notre coup, quoi. On travaille à côté aussi d'autres choses, typiquement le fait de mettre en place ce que nous on appelait des component teams, donc en gros d'avoir une team platform core qui va gérer en gros tout le socle de fondation tech pour que les autres équipes justement puissent travailler au mieux. On fait la même chose avec la data, mais on se dit on veut tenter le full setup, et en gros on prend un setup qui est assez naturel pour nous, qui est de dire on va prendre, on l'a fait hyper basique, hein, on a pris toutes les étapes des cycles utilisateurs. Et on a découpé les périmètres fonctionnels en 5-6 équipes comme ça, donc qui vont de comment je transforme un lead, un prospect en lead, comment je vais l'aider à comprendre le catalogue de Backmarket, comment je vais l'aider à convertir, comment je vais l'aider à payer. Et il y avait toute une autre partie qui était justement autour des marchands. Et par contre, ouais, sur la partie marchand, on est resté sur une team un peu plus grosse qui du coup gérait, on va dire, tout ce qui était back-office et outils. Parce qu'à cette époque-là, en fait, on se rendait pas compte, je pense encore, qu'on pouvait aussi avoir une vision user flow de la vie d'un marchand. Et objectivement, on n'avait pas aussi tout le setup qu'il y avait à la fin chez Backmarket. Pour info, la partie marchand chez Backmarket, quand je suis parti, c'était quasiment 15 feature teams. Donc c'était beaucoup plus gros que la partie client. Et à cette époque, je pense, quand on cherchait, on s'en était pas rendu compte, et du coup, on avait fait l'inverse. Mais ouais, là, c'est... Le setup change aussi fortement parce que là, on commence à être dans le dur, dans le sens où on a plusieurs roadmaps à gérer qui doivent s'inscrire dans une vision globale. On commence à avoir les sujets hyper complexes de comment tu gères la transversalité, comment tu fais bosser les feature teams ensemble, comment tu gères au mieux ta charge pour faire en sorte que toutes les prios soient pas sur une feature team versus les autres, etc. Donc ça, c'est compliqué, mais c'est aussi à ce moment où je pense là on n'est plus une boîte early. On réfléchit vraiment, je pense, beaucoup plus structuré et fort, et on commence à avoir des acquis et en vrai tout va vachement mieux. C'est là aussi où c'est la phase de BM où les choses évoluent fortement, où tu commences à avoir encore une fois les levées de fonds, les pubs télé, où quand tu parles avec ta maman, elle sait ce qu'est Backmarket parce qu'elle en entend parler. Enfin, c'est une autre phase pour le coup. Et pareil, c'est marrant parce que les choses sont liées, quoi, mais c'est aussi à ce moment où je me recule encore un peu. c'est factuel, hein, mais vu que l'orga, encore une fois, fonctionne bien, en fait, il n'y a pas que moi, il y a tout l'orga, on va dire, middle manager de BM qui s'est structuré, et on commence à accepter d'avoir un COMEX. C'est le moment où on commence à se dire, ok, on va se réunir régulièrement pour avoir des décisions un peu prio strat de boîte, parce qu'avant on fonctionnait quand même pas mal en silo, c'est pas le bon mot, mais objectivement quand on devait parler de produit, on s'enfermait On enfermait dans un bureau les trois fondateurs, moi et Guillaume, par exemple, du marketing. On pouvait parler de ce qu'on voulait faire sur les 6 prochains mois, etc. Et là, on se dit, OK, on va avoir une démarche un peu plus structurée de la chose. Et du coup, ouais, non, c'est le balbutiement, on va dire, de l'approche exec de mon taf de produit. Mais c'est plus facile aussi parce qu'encore une fois, le setup fait que ça marche. Et c'est là aussi où il commence à y avoir des profils, pour rebondir sur ce que tu disais avant, beaucoup plus seniors. Où là, t'as plus le choix, toi, en tant que Tony du produit, de te dire je vais recruter des gens plus forts, mais du coup, plus fort, ça veut dire aussi avec beaucoup plus d'années d'expérience. Et en vrai, ça change parce que là, t'abordes l'aspect managérial de ton taf frontalement, dans le sens est-ce que je vais être capable de manager cette personne, est-ce que je suis pas un imposteur, encore une fois, toujours la même chose. Ça fonctionne encore aussi parce que je pense que là, c'est des mauvaises questions, la question de est-ce que je vais être capable de manager quelqu'un qui a plus d'XP sur le papier que moi. En fait, c'est pas tant ça la question, c'est est-ce que cette personne c'est la bonne sur le périmètre que tu vas proposer. Et je pense qu'on avait vraiment bien fait le boulot, justement d'avoir des choses challengeantes pour tout le monde. Et en fait, quand tu venais venir un gros profil, en fait, il se retrouvait pas dans un setup où il se disait mais qu'est-ce que je fous là, on joue avec nos crottes de nez, quoi. Il jouait vraiment avec un vrai périmètre dense et on créait quelque chose qui marchait bien, nous aussi d'un point de vue relation managériale, pour le coup.
Et est-ce que justement, alors je sais pas si c'est la phase où t'es passé product director de la boîte, est-ce que c'est posé la question de toi ou pas, de recruter quelqu'un d'autre, parce que voilà, en tant que premier PM, il y a toujours ce moment où on se dit, est-ce que je suis toujours la bonne personne à la bonne place? Est-ce que ça, c'est des questions que tu te poses? Est-ce que tu te dis, est-ce que la marche, elle est pas trop cette fois ou pas? Est-ce que tu te rappelles la discussion et ouais. Même comment on t'a proposé ce poste de product director, est-ce que tu te rappelles?
Oui. Non, on se posait pas ce genre de questions à l'époque. Parce que, pour être très honnête, t'es dans le feu de l'évolution de ta boîte et en fait, tout le monde est surengagé et on se posait pas tant les questions des wordings. On était tous très contents de faire ce qu'on faisait, on le faisait bien et c'était suffisant. Je passe de Head of Product à Product Director, plus dans une optique de, pour le coup, de RH pour moi, et c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais moi j'ai un truc sur les job titles, je m'en fous un peu objectivement, et là c'est cool parce que c'est cool, c'est cool pour le marché, mais ça change quasiment pas dans le quotidien. Et non, à cette époque-là, je me dis pas le poste est trop gros pour moi, parce qu'en fait on est tellement la tête dans le guidon que ces questions elles se posent pas, enfin c'est très naturel pour le coup.
Alors on arrive à la fin de cette deuxième partie, et on passe à la troisième qui est plus consacrée au leadership produit en tant que tel dans une boîte.
Là, on est en fin 2019. Là, je crois qu'on est 200 et quelques personnes chez Backmarket. Donc là, il y a eu la grosse phase d'explosion, quoi, de ça marche et du coup, on recrute. Et 200, c'est le setup parfait. En vrai, c'était le meilleur. Moi, personnellement, c'était mon moment préféré chez BM. Et du coup, l'orga évolue fort. Hein. On commence à avoir une équipe qui fonctionne bien. On a beaucoup de feature team. Là, je crois qu'on est à peu près à 7 feature team et 3 component team, encore une fois. Ça roule bien. On travaille des notions qu'on essaye de mettre au niveau de la boîte. Typiquement, il y a cette histoire de one topic, one owner, one KPI. On essaye justement de travailler encore plus l'ownership de tout le monde et pas juste du produit de la tech, mais aussi des autres fonctions type ops, marketing, compagnie. On itère et ce qui est intéressant, c'est que là, moi, encore une fois, ça change encore. Et je me souviens très bien du moment où ça a changé dans ma façon de voir le taf. C'est on se retrouve encore à sortir toute l'équipe. Hein, désolé, c'est le fil conducteur. Et à cette époque-là, il y a un VP Eng qui arrive. Il y a aussi quelqu'un pour les ops qui arrive. Et en gros, c'est vraiment la première fois où on se dit, nous, en tant qu'expertise fonctionnelle, on doit aussi travailler nos visions et qui, au final, alimenteront la vision de la boîte, quoi. Et je me souviens de cette session où nous trois, on se retrouve chacun à exposer notre vision, donc ils sont imbriqués parce qu'on a bien fait notre taf, etc. Et en fait, le taf de vision et de prise de recul et de dire, OK, d'un point de vue produit, quel est le lien entre la vision de boîte, la vision produit? On avait fait un truc malin, c'était exactement la même chose, c'était super. Et justement, d'en découler des grands axes de vision autour de tout ce qui va être la qualité, la notion de trust, la notion de justement comment on est un produit qui est conversationnel / qui diffuse la brand, etc. Et en fait, je me rends compte à ce moment-là que je m'étais jamais trop posé ces questions. Et donc, c'est la phase où t'es un peu moins tête dans le guidon au sens produit pur et dur. et où tu es dans une phase qui est complètement différente, de se dire comment je fais en sorte que le setup de strat et de vision guide le travail des gens. Et alors c'est un peu autoritaire de dire ça, mais je veux dire fixe des règles, mais c'est pas tant ça, c'est plus donne les règles du jeu et comment tu fais en sorte que les gens puissent s'approprier les règles du jeu et s'amuser dans le terrain, quoi. Ouais, énorme travail. Donc on appelle ça les North Stars. On explique en gros que tout ce qu'on veut faire, c'est pour atteindre le niveau de qualité des produits neufs. Et en fait, quand on parle des produits neufs, on parle pas que du produit en soi, on parle aussi de l'expérience client, du produit. Donc en fait, ça devient une espèce de mantra de comment nous, on augmente notre niveau pour un jour dépasser ce niveau. Et c'est aussi là où très factuellement, tu commences à avoir un switch aussi dans ton équipe. Tu commences à avoir des leaders de leaders parce que tu passes dans l'autre phase où... Bah là, ouais, ce que je disais tout à l'heure, on était à 10 équipes, mais au fil de l'eau, bah, ça grossit, et tu te retrouves avec des... Alors, on commence à mettre la notion de tribe en place, parce que forcément, quand tu commences à avoir une quinzaine de teams, bah, ça veut dire 15 direct reports, etc., donc ça ne marche plus, donc tu commences à avoir des leaders de leaders, donc ça repose encore des questions sur ton positionnement et sur ce que tu dois laisser faire et laisser couler comme part de ton expertise. Pareil, ça se passe naturellement, c'est plutôt très agréable d'ailleurs. C'est aussi un moment que j'ai beaucoup aimé parce que c'est à cette époque, du coup, le produit, l'équipe produit que je gérais, c'était l'expertise product management et product design. C'est à ce moment-là où on commence à se dire aussi, bah en fait, il n'y a pas que ça dans le produit. Du coup, je commence à avoir une équipe de web analyse, ce terme qu'on n'existe plus, mais qui est en gros de l'analyse data liée au comportement utilisateur, ce qui est quand même très agréable. Alors, on avait déjà des gens, mais là, on commence à muscler. C'est aussi dans cette phase de boîte qu'on se dit bah, il va falloir une équipe de user research, donc on commence à avoir une belle équipe de user research, avoir une équipe de copywriting, donc on commence à muscler le setup produit pour avoir quelque chose de plus complet et d'encore plus, on va dire, méthodique et travaillé. Et du coup, là, ça devient vraiment autre chose. Parce que c'est une question de, bah, encore une fois, comment tu retravailles les dynamiques de travail de toutes les expertises entre elles, comment tu fais en sorte de, des exemples très concrets, mais de pas avoir une équipe de recherche qui va faire des recherches très très longues, alors que toi, t'es quand même toujours dans ta boîte qui doit aller vite, et donc t'es dans des thématiques d'aller chercher de l'incrément au quotidien. Donc il y a plein d'autres sujets et problématiques qui se font, mais tout ça se règle très facilement, encore une fois, parce que l'ABM est pour le coup très connue, et on commence à pouvoir recruter des gens avec beaucoup beaucoup d'expérience dans d'autres pays, ce qui est aussi une phase qui change, parce que moi, je me retrouve avec une équipe où... la moitié des gens sont à l'étranger, la moitié des gens parlent pas français. Je me retrouve avec des gens qui ont déjà 20 ans d'XP. Donc là, pour le coup, c'est vraiment moi, je travaille juste ma posture de manager pour pas être un vendeur de rêve face à ces gens et juste être quelqu'un qui sait faire son taf. Ça marche, hein, j'espère. C'est pas j'espère pour le coup. Mais ce qui change fortement là, c'est que ma façon de voir le produit est plus comment moi je sers au mieux la boîte et sa strat, ce qui est toujours le cas au produit depuis le début, mais là c'est plutôt comment moi, Tony, j'apporte les bons inputs en tant que leader de boîte au même titre que mes autres pairs sur la tech, le marketing, etc. Et là tout change parce que je me retrouve principalement avec une autre casquette, donc en gros c'est travailler les budgets, travailler les problématiques opérationnelles, aller justement encore une fois juste quasiment se concentrer sur la transversalité, sur comment on fait en sorte que toute la boîte soit alignée sur les prios, la strat, etc. Donc ça change beaucoup pour moi, c'est un autre apprentissage aussi, hein, parce qu'objectivement c'est là où tu vois tes lacunes, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais une énorme lacune sur la finance, pas au sens finance... je sais pas trop comment dire, mais la finance de boîte, en gros, quels sont ce que tu dois monitorer au quotidien, c'est quoi une contribution margin, c'est quoi le CAC, etc. Et en fait, c'est là où tu te dis, en fait, il y a encore plein de trucs à apprendre, et où tu te dis que aussi le produit peut avoir un impact là-dessus. Et ça, c'est quelque chose, je le disais déjà pas mal en recrutement, mais c'est à ce moment-là où je pense que je l'ai compris, c'est que j'aime pas le produit artiste, dans le sens où on n'est pas là pour faire des features qui ont des petits incréments. En fait, on est là, encore une fois, pour répondre à de la strat. Et c'est là où tu te rends compte que des éléments que tu maîtrises pas, typiquement la finance et le budget, sont autant des éléments de priorisation et de guideline de ton produit que le reste. Et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça. Et c'est ça le vrai changement, c'est quand tu prends quand t'acceptes ta posture de tu es là pour ta boîte et pas pour ton expertise fonctionnelle, tout change, quoi. Là, je me retrouve en 2021 avec une équipe produit de 45 personnes. Donc on commence à être sur un beau Charles Leclerc, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'équipes produites. Donc là, on est quasiment à une vingtaine de feature teams. Et les questions sont toutes différentes maintenant. C'est en fait comment on travaille. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, les meilleurs trifecta de priorisation. Donc comment on fait en sorte d'avoir tout le monde qui a sa voix au chapitre et que justement nous on n'est plus jamais à venir en top-down ou à arbitrer des décisions de priorisation, ce qui montrerait que l'organe fonctionne pas. Le taf, c'est beaucoup de travail sur ça en fait. C'est plus sur comment s'assurer que tout fonctionne partout. Et y a une autre dynamique qui s'inscrit, c'est ça y est, on est un peu plus une grosse boîte, il faut se le dire aussi. Là, on est entre 400 et 500 personnes à ce moment-là. Donc il y a aussi des questions de, il y a des choses qui commencent à être moins fonctionnelles que d'autres. Et il faut aussi commencer en tant que mec qui gère le produit, avoir l'honnêteté de se dire, OK, y a des endroits où on est moins performant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est très dur, c'est très très dur. Je pense que c'est là où personnellement je me suis pris plus de difficultés, c'est être capable de se dire, OK, on a fait des mauvais choix de priorisation. Et en fait, c'est ça où, ce que je disais au début, de la mauvaise prio, elle est coûteuse en début de boîte, mais en fait, elle est toujours coûteuse. Et c'est juste qu'en fait, quand t'es plus gros, tu crées beaucoup plus d'inertie sur tes mauvais choix. Toi, dans ta posture de mec qui doit gérer ça, en fait, c'est pas facile, quoi.
Là, ce qui est intéressant, c'est que dans le moment de l'entreprise que tu nous décris, le moment de l'équipe produit, c'est des choses que tu n'avais jamais vues ailleurs, probablement. Quand tu parlais de vente privée tout à l'heure, c'est que tu avais quitté la boîte avant que ce genre de questions puissent t'arriver. Comment tu as fait pour, un, te dire que vous êtes, les choix que vous preniez, le fait de passer à 15 feature teams et autres choix que tu nous as expliqué tout à l'heure, étaient les bons, que c'était ceux-là qu'il fallait prendre? C'était quoi le processus qui vous amenait à prendre des décisions de ce type-là?
Une magnifique question. Mais je pense qu'on n'avait pas de processus. Enfin, la chance qu'on avait, c'est de se dire, et on se l'est dit très rapidement, encore une fois avec Quentin, qu'on devait considérer tout ce qu'on faisait dans la boîte comme étant un produit, et que ça pouvait évoluer du jour au lendemain sans problématique. Nous, ce qu'on se disait, par exemple, il y avait un très bon exemple de ce qu'on aimait faire dans l'orga, c'était de dire, back market, t'as ton corps produit, et t'as tout ce qui est, on va dire, additionnel, exemple, les assurances, la logistique, etc. Et en fait, tous ces périmètres fonctionnels qu'on n'avait pas dans l'orga, là où on testait des choses dans l'orga, c'était de dire, OK, typiquement, l'équipe assurance, on va l'incuber dans une feature team, et à partir du moment où elle sera à maturité, pouf, ça fera un nouvel embranchement et une nouvelle équipe. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on se mettait des garde-fous et des garanties pour que ça marche, parce que ça veut dire qu'on divisait pas juste au gut feeling et à l'envie de faire quelque chose, on incubait pour tester, puis quand c'était mature, on sortait les équipes. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais eu trop de... j'allais dire d'erreurs de gut feeling, encore une fois, où on avait fait un choix en se disant, ah non, en fait, on a totalement foiré, on fait machine arrière, parce qu'en fait, on mettait nous-mêmes des garde-fous et de l'assurance partout sur le fait que ce qu'on devait faire pouvait être réversible facilement et que les gens devaient eux-mêmes être honneur de l'orga. Donc pas de framework particulier, mais plutôt l'envie de faire évoluer le truc à chaque fois par rapport à la réalité du produit et des gens qui étaient là aussi, quoi.
Et souvent, on dit que les changements d'orga réguliers, c'est quelque chose qui est épuisant pour les équipes, qui crée beaucoup de stress. Toi, à ce moment-là, c'est des choses que tu as en tête, que tu gères, que...
Ouais, complètement. Dès le début, en fait, où on commence à faire évoluer l'orga souvent, on voit que c'est épuisant, c'est le bon terme, parce qu'on voit que les gens, soit sont surex, et du coup se projettent très très fort dans l'orga, soit ont un peu de réticence ou de questionnement. Et au début, c'est quelque chose qu'on minore un peu pour être très fort. On se dit, OK, nous, on voit bien tel dans telle équipe, etc. Et en fait, pareil, c'est aussi, donc encore une fois, avec la partie tech et nous produits, on se dit, OK, notre rôle, ça va surtout être d'accompagner le changement constamment. Et c'est pour ça qu'on implique tout le temps les gens, en fait. On fait jamais des... En fait, je pense que les changements d'orga fatigants, c'est ceux qui sont subis, je mets des guillemets, mais dans le sens où t'as eu des têtes pensantes qui ont dit, OK, on va tenter des feature teams, on va mettre un tel dans chaque team. Nous, on n'a jamais fait ça. Enfin, on a toujours proposé des choses et demander aux gens de retravailler et de s'approprier ce qu'on proposait, et jamais juste de pousser quelque chose. Et en fait, ça marche parce que, encore une fois, les gens se projetaient dans leurs équipes par leur appétence d'expertise, quoi. Alors, c'était pas open bar, c'était pas « moi, je veux bosser avec machin, donc on va aller dans telle équipe ». Mais ça s'est toujours bien passé, et on était extrêmement vigilants là-dessus. On avait mis en place aussi pas mal de choses, type des health checks d'équipe pour dire en gros, ok, ce que je fais a du sens. Alors il y avait plein d'items qu'on checkait assez régulièrement en mode, je me sens bien dans mon expertise, je me sens bien dans mon découpage, je subis pas les choix, etc. Et c'est l'orga, en fait, c'est ça à la base, c'est justement de faire en sorte que les gens se sentent bien à leur place. Et aussi pour que les gens ne subissent pas tout ça, il y avait une faculté slash une envie de faire en sorte que les gens puissent bouger. Objectivement, ça s'est pas tant fait que ça, parce qu'au final, quand l'orga est bien faite, les gens sont très contents d'évoluer dans leur expertise, qu'elle soit fonctionnelle ou métier, quoi. Donc on a eu peu de moves d'une équipe à l'autre, on en a eu quand même, hein. Mais souvent on a eu des moves dans une même tribe, donc d'un périmètre proche à un autre. Mais par contre, la liberté, elle était totale. Si tu voulais aller ailleurs, tu peux le faire, quoi. Donc je pense que c'est juste une question de bien monitorer comment les gens perçoivent les changements et comment tu les aides à se projeter dans les changements et comment tu donnes les possibilités que eux-mêmes dans ce setup puissent changer en exprimant des choix.
Même type de question qu'au chapitre précédent. Comment est-ce que tu montes en compétence justement sur ces nouvelles fonctions de leadership, de plus de benchmarks sur ce que font les autres, sur essayer de trouver un peu les tendances nouvelles en termes d'orga? Tu parlais de nouvelles équipes, de content writing par exemple, ou product marketing. Mmh. Voilà, comment est-ce qu'on se met dans ce rôle-là de bon, mon rôle, c'est plus de gérer les gens, c'est potentiellement de lire un peu l'avenir, d'écrire des North Stars. Enfin, toi, t'es dans cette logique de stratégie. Ça, pareil, est-ce que t'as été accompagné? Raconte-nous comment t'as appris ça.
Ouais, un peu le même setup que ce que je te répondais tout à l'heure, en fait. Enfin, la grosse chance que j'ai eue chez Backmarket, c'est d'être accompagné quasiment tout le temps. Et justement, au-delà de l'aspect « je ne sais pas faire un truc, aidez-moi à l'apprendre », qui est une réalité, pour le coup, il y avait aussi le setup de j'ai du mal en ce moment à vivre l'organisation et comment ça se passe et comment je dois évoluer, aidez-moi personnellement à évoluer. Et du coup, il n'y a pas de formule magique, alors c'est difficile de dire « bah ok, on m'a fait faire ça, 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 ça ». Mais en fait, je pense sincèrement que, notamment sur, le mot est bizarre, mais sur les jeunes managers et sur les gens qui doivent évoluer avec l'orga, l'accompagnement, c'est plus qu'essentiel, en fait.
Genre, c'est quoi? C'est du coaching? Des coachs indépendants, ouais. Ou des coachs produits?
Ouais, exactement, qui... ouais. Toujours Fly Honest. Ouais. Donc, ils m'ont coaché quasiment pendant toute mon expérience chez Backmarket. Et que nous-mêmes, on pouvait activer pour coacher des gens dans nos équipes. Donc, en fait, je pense sincèrement que c'est... Alors, c'est très oui-oui de dire ça, mais en gros, en fait, tout le monde se tirait assez vers le haut parce qu'en gros, vu qu'on était tous encadrés, il y a aussi une notion de... Il y a quand même une très grosse notion de transparence chez Backmarket, notamment, encore une fois, avec nos pairs, côté fondateur, comex et tout, où quand on capait, on était capable de se le dire, en fait. Et c'est aussi à ces moments où tu dis, ok, là, je commence peut-être plus à être à ma place, ou je peux me faire aider et je vais évoluer, mais en fait, cette notion de... Je pense qu'entre l'accompagnement et la transparence que tu as avec tes pairs, je pense que tu évolues assez naturellement. Toujours un moment où tu capes, mais par contre, ça, c'est porteur.
Ça, t'aurais pas pu franchir ces paliers comme ça successivement.
Ouais, c'est okay. Sûr que non. Et sans l'équipe qu'il y avait, en fait. Encore une fois, pour rebondir sur le tout début du podcast, on disait qu'en gros, moi, je comptais beaucoup sur les fondateurs et l'équipe qui était en place. Quand je suis parti, le COMEX, c'était, je pense, 80% des gens qui étaient là au début. Donc, on avait une relation de travail qui s'était construite dans le temps. Et en fait, c'est ça. Quand t'es accompagné et que t'es en confiance avec les gens avec qui t'es et que t'as confiance dans l'expertise, ça va vachement mieux et tu apprends beaucoup plus vite, et j'aurais jamais fait ça autrement, je pense.
Alors justement, tu parles du COMEX, alors c'est une notion qui peut paraître un peu mystérieuse ou mystique pour certains ou certaines qui n'ont pas eu la chance encore d'intégrer celui de leur entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter justement, toi, quel était ton rôle dans le COMEX, comment ça se passait? J'imagine que du coup, ça parlait plus que produit, donc tu devais être confronté à des thématiques qui étaient en dehors de ta zone de compétences. Voilà, comment, même type de question, et c'est le fil rouge de ce podcast, comment est-ce qu'on apprend ce rôle de leader produit dans un COMEX de sa boîte?
Alors déjà, il faut... COMEX, ça veut rien dire. Enfin, d'une boîte à l'autre, ça veut pouvoir dire des choses très, très, très différentes. Chez Backmarket, c'est marrant parce qu'au début, il y a eu un moment où on n'assumait pas trop le délire COMEX et du coup, c'était plus une réunion de manager, quoi, en gros. Au fil du temps, on a accepté et en fait, c'était... Il n'y avait rien de sorcier, quoi. C'était juste des gens qui se réunissaient pour faire en sorte que la boîte roule bien et en fait, les thématiques dépendaient des sujets du moment, quoi. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas un ordre du jour avec... Enfin, s'il y avait un ordre du jour, mais je veux dire, il n'y avait pas de truc normé dans le temps. Là où, moi, je me suis beaucoup amusé au COMEX et dans la posture que j'avais, c'était justement, comme tu disais, de ne pas parler que de produits. C'est clairement le sujet, quoi. Là où on était bon, c'était sur trouver les points qu'on devait travailler collégialement en tant que boîte pour passer les steps suivants. On a fait des exercices ensemble de c'est quoi le vision plan de la boîte pour dans 15 ans, comment on organise la boîte pour dans 15 ans, et tout ça en fait c'est super excitant parce que personne ne sait le faire. Enfin, tu sais le faire parce que, encore une fois, t'es accompagné et que tu rencontres des gens qui l'ont déjà fait. Mais là, dans notre groupe, personne ne l'avait jamais fait. Donc, c'était plus, en gros, on apprend en faisant, en étant accompagné, encore une fois. Et ce qui est passionnant, je pense, dans cette posture de Comex, c'est que tu dois te positionner, tu dois monter en compétence sur les expertises des autres. Ce que je disais sur la finance tout à l'heure, moi, l'aspect qui m'a le plus amusé chez Back Market et celui où je pense que je suis le plus monté en compétence, c'est sur la partie people, culture, qui était un gros sujet de Comex chez Back Market sur comment on retient les gens, comment on gère les problèmes, que ce soit vraiment des gens slash de l'organisation, encore une fois, comment on fait en sorte d'avoir une machine de recrutement qui fonctionne au niveau de la boîte, comment on fait en sorte de gérer le budget de recrutement. Enfin, c'est des choses qui, moi, m'ont passionné, et la culture, parce que c'est le méga, méga point fort de Back Market, et c'est un truc qu'on a travaillé fortement sur les 3-4 dernières années, et c'était un sujet de Comex. C'était là où on décidait de, ok, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir un bureau à Bordeaux, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone quand on ouvre un bureau à l'autre bout du monde, etc. Comment on fait en sorte que tout le monde ait le même état d'esprit, peu importe le bureau. C'était vachement intéressant. Et c'est là où moi je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Et dans le Comex, tu peux aussi être très terre-à-terre et devoir discuter d'un problème que tu as sur la tech, le produit. Enfin, c'est constamment, tu passes du micro ou du macro. Et après, il y a des choses moins drôles. Hein. C'est tous les 6 mois, tu refais le budget, tu calcules ta top line, tu prépares tes slides pour le board, etc. Mais c'est pas, y a rien de sorcier dans tout ça, quoi. C'est pas une réunion secrète avec des décisions qui vont décider du sort de la boîte, quoi.
Et on passe au chapitre 4, qui est le départ, forcément, ouais. Vers Zephyr.
Du coup, là, tu viens de nous raconter Back Market, tu viens de nous parler de la culture extraordinaire, des équipes avec qui tu adorais bosser, et pourtant tu as quitté Back Market. Qu'est-ce qui s'est passé?
Avec du recul, il y a plein de choses. Il y a toujours le plus important pour moi, qui est la question du cycle, quoi. Et ça, j'y crois fort. C'est un mélange de, en effet, à un moment tu as moins la dynamique qu'il faut pour être bon au moment où tu es, quoi. En fait, moi, le premier trigger, ça a été de me dire, attention, tu commences à penser mal, parce que tu commences à te dire des trucs du genre c'était mieux avant, ou ça allait plus vite avant, ou on était plus libre. Ça, c'est des triggers qui te montrent que tu commences à fatiguer. Et je crois que cette notion de fatigue dans ton taf, elle est importante. Et que tu prends moins de plaisir, et que tu te rends compte quand tu prends du recul à la fin de ta journée que t'as été un peu plus négatif dans les réunions que t'as pu faire, un peu plus offensif, et que t'es moins dans la collaboration. Et en fait, ça, c'est tous ces trucs qui m'ont dit, ok, il y a peut-être un truc qui va moins bien. Objectivement, et pour répondre sur ta question aussi tout à l'heure, on commençait à réfléchir à est-ce que j'étais la bonne personne pour la prochaine phase de boîte, qui était en gros de passer de 600 à 5000. Objectivement, la réponse, elle était non. Je pense que j'ai mis un peu de temps à me le dire, mais la réponse était clairement non. Donc tous ces éléments de changement slash de moins de motivation et tout, et tu commences à te dire, ok, est-ce qu'il faut que je reste, est-ce qu'il faut que je parte? Tu l'as bien dit en posant la question, il y a tellement de trucs incroyables dans cette boîte, et j'adorerais Back Market toute ma vie pour ça, et où tu dis, mais en fait, il faut rester. Qu'est-ce que tu peux trouver de mieux qu'une boîte où tu as la culture, les gens, le fonctionnement, la dynamique, enfin, tout fonctionne. Et après, tu commences pareil à. C'est pas aussi factuel que ça, mais tu commences à avoir ta grille de lecture qui est de te dire, ok, est-ce que je dois partir ou pas? Et du coup, tu te reposes et tu te dis, ok, est-ce que j'ai envie de refaire du produit plus hands-on? En fait, la réponse, c'est oui. Tu ne te rends peut-être pas compte au quotidien, mais en fait, c'est oui. Est-ce que j'ai envie de repartir sur un truc beaucoup plus from scratch et justement pas être dans une phase d'optimisation du gros paquebot qu'est devenu cette boîte? Pareil, la réponse est oui. En fait, tu te poses plein de questions comme ça, et assez naturellement, à un moment, tu te dis, ok, bon, en fait, il faut accepter que c'est le moment de partir, que certes, tu vas regretter des trucs, mais qu'en fait, il faut que tu essayes de faire le bon choix pour aller construire quelque chose de cool à côté. Et je me retrouve un peu dans la même phase qu'au moment de vente privée où factuellement j'ai pas de raison trop de partir parce que ça se passe bien, et où j'ai le luxe de me dire ok, vas-y, je peux prendre le temps de choisir. Et là se passe un certain temps où tu discutes avec plein de gens. Alors moi, j'ai toujours discuté avec plein de gens, produits et autres, entrepreneurs, pour voir ce qui se passe, quoi. Et ce qui est fantastique aussi, il faut pas se le cacher, hein, c'est que Back Market, c'est une entreprise qui en effet, ayant sa croissance et sa portée, bah, te rend sexy sur le marché, hein, faut être très honnête, quoi. Et du coup, je me retrouve à discuter avec beaucoup d'entrepreneurs, de fonds d'investissement, etc., qui commencent à vouloir créer des projets avec toi. Et en fait, bah, en plus de la réflexion que t'as et du changement de perception de ta vie pro, bah, tu commences à dire, OK, il y a peut-être des choses cool à faire avec zéro perspective d'évolution, tu sais pas si ça va marcher ou quoi que ce soit, mais en fait t'as envie de tenter. Et moi c'est ce qui s'est passé, je me suis dit ok, il faut que je refasse le pari du early, peut-être même encore un peu plus early que ce que j'ai fait en rejoignant BM. Et du coup bah, je me retrouve à discuter avec plein de monde et je discute avec notamment Louis, Rémi de Zéphir, et en fait c'est exactement la même chose que pour le moment où je suis allé chez BM. Je me retrouve à discuter avec un chasseur et c'est le même discours, c'est qu'est-ce qui te ferait bouger, et bah voilà, early, vraiment early, des gens câblés, etc. La même grille. Et bah, ça matche bien. Et sauf qu'il y a une différence fondamentale dans la discussion, c'est que maintenant, bah, j'ai fait. En fait, ces gens qui créent des boîtes très early sont en mode, on aimerait avoir une croissance très forte. On aimerait suivre un chemin, justement, qui fait qu'on va pouvoir construire une boîte qui va s'inscrire dans le long terme, etc. Et en fait, maintenant, la différence de mentalité en 5-6 ans dans les startups, elle est folle, parce que maintenant, les gens, ils ont vu, en gros, bah, encore une fois, toutes ces boîtes qui sont valorisées plusieurs milliards, maintenant, les levées, etc. Et donc, tout le monde est dans une dynamique de, OK, comment on réplique ces modèles, mais comment on les fait mieux? Et c'est exactement ça, là. En gros, Zéphir, la discussion avec Louis et Rémi, c'était, comment on va réussir à construire une équipe de personnes qui ont déjà fait pour faire mieux. Et en gros, moi, c'est ce qui m'a excité dans le sujet, au-delà de l'appétence avec le produit, le fit, etc. C'était de se dire comment moi, avec ce que j'ai vécu chez Back Market, je vais pouvoir aider un projet à se structurer le plus rapidement possible, mais le plus sainement possible. Parce que objectivement chez BM on a fait énormément de choses bien, on a fait énormément de choses un peu moins bien aussi, et du coup t'as un peu plus de certitude sur ce que tu veux faire et comment tu veux le faire, et en fait c'était ça les discussions que j'avais avec les gens qui discutaient, et avec Louis et Rémi ça a coché 100% des cases, et du coup on s'est dit ok, bah, on va construire la proposition de valeur et le produit Zéphir ensemble.
T'es resté un peu plus de 4 ans chez Back Market au total. Est-ce que les moments de doute dont tu parlais à la fin, là, justement, de est-ce que je suis encore la bonne personne, etc., est-ce que pour la prochaine phase, est-ce que c'est des doutes que tout au long de ces 4 ans, tu as connu ces doutes-là, ou là, il y avait vraiment quelque chose de spécial par rapport au...
Ouais, non, c'était différent. Enfin, tu vois, ben, je crois que j'en ai parlé plusieurs fois pendant le truc, mais c'est... Je pense que pendant la 80% de mon taf chez BM, t'as toujours la question de est-ce que je suis un imposteur, quoi. Enfin, est-ce que je suis la bonne personne au bon moment? Et souvent, en fait, ça s'évapore. Parce que t'es, encore une fois, t'es porté par la réalité de ton travail et de ce que tu dois faire. Du coup, en fait, tu vois que tu gères et donc ça va. Sur la fin, c'était différent. C'était plutôt, encore une fois, une question, j'allais dire, de fatigue, mais pas au sens fatigue physique, quoi, mais de... Est-ce que c'est toujours mon projet, tu vois? Et je me souviens, donc Thibaut, qui est CEO de la boîte, il a toujours dit un truc, notamment comme ex, c'est que le projet nous dépasse tous. Le projet de BM nous dépasse tous en termes de ce qu'on sait faire, d'expertise, etc. Et je pense que c'est la phrase la plus vraie possible, et qu'il y a juste un moment où, et c'est la thématique de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a juste un moment où tu dois accepter que le gap entre ce que tu sais faire et ce que tu dois faire, tu peux l'atteindre ou pas. Et là, je pense que c'était, pour moi... plus le moment où je me disais, bah, ok, bah, je vais réussir à avoir une équipe de 5000 personnes avec un produit qui sera potentiellement 200-300 personnes. Je pense que c'était pas encore mon moment et que du coup, il fallait aller voir autre chose, quoi.
Est-ce que tu te rappelles du moment où t'as pris ta décision, où t'as annoncé à tes fondateurs que voilà, t'allais partir? Est-ce que il s'est passé un moment, il y a eu un jour précis dans ta tête?
Ouais, alors c'est marrant parce que c'est un mélange des deux, parce qu'on en parlait. Enfin, on était en mode, ok, il faut qu'on change, est-ce qu'on va... En gros, le but, c'était de dire qu'il faut qu'on trouve un nouveau rôle dans la boîte pour toi et qu'on fasse évoluer. Et en fait, on en parlait déjà ouvertement. Et en fait, ça s'est passé à un retour de vacances où je me suis dit, justement, où je ne travaillais pas et j'ai eu le temps de réfléchir pour moi à la suite et tout. Et je suis arrivé, j'ai appelé Thibaut et je lui ai dit, en fait, il faut qu'on réfléchisse à mon départ. Et du coup, ça a ouvert des discussions différentes qui étaient plutôt de l'ordre de OK. Est-ce qu'on est sûr? Et parce que, bah, encore une fois, c'est des gens que j'aime fortement et j'espère qu'ils m'apprécient aussi. Et du coup, c'était plutôt la question de comment on travaille le meilleur départ possible. Et ouais, non, c'était pas simple. Mais je me souviens très très bien du jour où j'ai écrit à Thibaut, vas-y, il faut qu'on se parle. c'était même si c'est quelqu'un avec qui j'étais très très proche, etc., ça fait quand même une petite difficulté. Et tu te retrouves assez vite dans les baskets du petit mec qui doit aller annoncer à son boss qu'il veut partir, et c'est jamais rassurant.
Dernière question, un peu le bilan de tout ça. Est-ce que, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses que tu as évoquées. Est-ce que, en résumé, même si c'est difficile de résumer une carrière et 4 ans en l'occurrence dans une boîte avec autant de passages différents, des choses que tu retiens, des enseignements, tu vois, que tu vas garder tout au long de ta vie et que tu mets en place potentiellement désormais chez Zephyr, et que tu pourrais aussi dire aux auditeurs du podcast qui sont dans cette phase peut-être de croissance et de questionnement aussi sur eux-mêmes dans leur boîte qui grossit.
Ah, c'est clair, je le dis tout le temps et c'est un peu stéréotype, mais il y a cette histoire de cycle et de savoir lire ses propres cycles et ses propres dynamiques personnelles. Je pense que c'est le plus important, parce que En sachant à quel moment de ta vie pro t'es capable de te dire en gros qu'est-ce que je dois faire évoluer dans mes compétences, qu'est-ce que je dois retravailler dans ma posture, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire, et ça c'est le plus important. Tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure en gros de est-ce que j'aime être un vrai manager ou est-ce que j'aime être un manager mais qui en même temps gère des sujets en direct, mais en fait ça peut donner des teintes complètement différentes à ton parcours. Je pense sincèrement que je n'ai pas beaucoup posé ces questions, parce qu'encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'était tellement intense que c'est pas tout le temps facile de prendre ce recul. Je pense que c'est le plus important, et maintenant c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois quand je vois une phase de boîte arriver, c'est de me dire ok, recul, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Ça c'est le plus important. Et en effet, je pense être très très clair sur qu'est-ce que c'est le produit pour toi en tant que leader, peu importe le niveau, lead, PM, principal, on s'en fout, mais c'est de se dire en gros qu'est-ce que c'est que mon expertise de leader produit, et qu'est-ce qu'encore une fois j'aime faire et pas faire. Et je pense par contre l'enseignement le plus fort, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est de par contre toujours avoir les mains dedans et ne pas se sentir dépassé par le monstre que tu as créé. Ce qui m'est arrivé, il y a vraiment des parties du périmètre où il y avait tellement des équipes fortes et avec des gens intelligents que je ne savais plus ce qu'était ce périmètre, alors que c'était moi qui l'avais créé il y a 4 ans, et c'était super, mais par contre ça veut dire qu'il y a un truc qui marche pas. Ça, je pense que je me suis rendu compte un peu tard, et du coup ouais, je pense que toujours avoir les mains dedans et réussir à changer de casquette d'un jour à l'autre, ou même dans une même journée entre très hands-on et très lead, c'est hyper important.
Merci Tony.
Merci à vous deux.
C'était Epic, le podcast aventureux du Product Management.
Produit par Le Ticket.
Et maintenant, tu peux t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes.
Et on n'est pas là pour te dicter ta vie, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est toujours sympa et ça nous aide à le faire connaître.
Allez, on se retrouve très vite pour la suite.
D'ici là, prends soin de toi.
T'es encore là ? Bon, ouais, ça tombe bien, on a oublié de te dire un truc. Si t'as aimé cet épisode, tu peux aussi t'abonner au Média Le Ticket. C'est une newsletter envoyée tous les 15 jours et ça parle de product management. Mais on pas trop chiant quand même. Enfin, on essaye.
Bon, par contre, là, faut vraiment y aller maintenant.